Bonsoir, Tobin de la Fraise, et ce soir vous propose trois thèmes à savoir. Visite de plusieurs jeudi du chef de l'État à Mbujimayi au Kasaï oriental. Ensuite, désignation des membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Le RCD et l'IDFS réclament chacun un poste parmi les trois qui doivent revenir à l'opposition dans la composition de cette institution. Enfin, violence sexuelle en République démocratique du Congo, selon le HCR, au moins 1244 femmes ont été violées au cours du premier trimestre 2010 à l'est du pays, soit près de 14 viols par jour en moyenne. Participe à ce débat trois confrères journalistes. Il s'agit de Bienvenue Marie Bakoumania, il est rédacteur en chef pour économie au journal Le Potentiel, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Israël Moussala, il est journaliste à Géopolis, magazine d'économie qui paraît aussi ici à Kinshasa. Charles Kabongo, il est journaliste à l'agence congolaise de presse qui quitte au Bandungu. Joseph Kabila Mbujimayi, débat dans l'opposition autour de la composition de la CENI ainsi que viol massif des femmes à l'est de la RDC. Tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse quinoise a traité ces différents thèmes? Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par ce crash survenu mercredi dans la province de Bandundu. Encore un crash de plus, titre l'avenir. Un avion de filière tombe, 20 morts. Ce quotidien estime que la RDC n'aura pas de bonheur avec ses avions tant que le service de l'aéronautique civile ne prendra pas ses responsabilités. À la une des journaux parus ce vendredi, la visite du chef de l'État Joseph Kabila dans la province du Kasaï oriental. À un an de la fin de son mandat, Joseph Kabila tente de convaincre le grand Kasaï titre la tempête de tropique. Africa News parle d'une perfusion record à l'Amiba. Opération coup de fouet en terre, l'Amiba avait besoin d'un coup de fouet pour se relancer et rendre le sourire à ses miniers meurtris par les années noires du diamant, écrit le quotidien. Seulement voilà, le chef de l'État a débloqué 10 millions de dollars sur les 20 millions promis en 2009. Avec cette enveloppe, estime le journal, l'Amiba est obligé de revoir à la baisse ses ambitions. Mais en tout état de cause, Joseph Kabila, qui avait fait un mauvais score en 2006, a entrepris une opération de charme au Kasaï dans la perspective des élections de 2011, soutient Africa News. Changeant de registre pour parler de la désignation des membres de la CENI, Le Potentiel s'intéresse aux trois postes sur les sept réservés à l'opposition au sein du directoire de la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Le MLC, l'UDPS, le RCD, le CDR et les autres sont déjà engagés dans la course. Selon le journal, l'agitation est vite montée d'un cran dans ce camp, alors que la majorité au pouvoir observe non sans intérêt. L'UDPS est favorite, estime Le Potentiel, s'appuyant sur cette déclaration du docteur Kabamba Bwebwe du Front Patriotique. Si l'on veut donner un minimum de crédibilité à la CENI, il faudrait choisir l'UDPS. Fin de citation. Mais ces concertations au sein de l'opposition plurielle s'avèrent indispensables, indique le journal. Terminons ce journal de journaux par ce chapitre sur les violences sexuelles en RDC. Au moins 179 personnes viennent d'être violées en quelques jours dans la région de Walikale, au Nord Kivu, par des miliciens Mai Mai et des rebelles FDLR, écrit l'Observateur. La grande majorité des victimes, précise le journal, sont des femmes, mais des jeunes garçons ont aussi subi des sévices sexuels. Les violeurs demeurent pour la plupart des cas impunis. Les atrocités de Walikale confirment les degrés de nuisance des hommes en armes en RDC, un pays où, selon l'Observateur, 60% des viols sont commis par des groupes armés. C'est la fin de ce journal de journaux. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.
Merci qu'elle écoute pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef économie au journal Le Potentiel. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous appréciez le travail de la presse chinoise de cette semaine?
La presse chinoise a bâti un travail de qualité. Par rapport au contenu, la visite du chef de l'État, je me dis, le chef de l'État apporte à l'AMIBA 10 millions de dollars. Le gouvernement, dans un premier temps, le président de la République avait promis 20 millions. Le premier ministre est revenu pour promettre encore une fois 20 millions et à une certaine période également, non loin, le gouvernement a dit qu'on a on rallongeait l'enveloppe jusqu'à 31 millions, donc il y avait 11 millions supplémentaires. Là, le chef de l'État n'a même que 10 millions. 10 millions pour la MIBA, c'est pratiquement une goutte d'eau dans un océan, et ça ne résoudra pas le problème de la MIBA, ça risque plutôt d'être englouti et de ne pas porter aucun résultat.
Oui, Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique qui paraît aussi ici à Kinshasa. Et comment vous appréciez le travail de la presse de cette semaine?
La presse a battu un travail extraordinaire et je lui tire mon chapeau. Mais pour revenir à la visite du chef de l'État au Kassai, cette visite marque d'abord que l'attachement du chef de l'État à résoudre les problèmes qui touchent la MIBA. Et les problèmes qui touchent la MIBA sont des problèmes qui touchent l'ensemble des populations de Kassai. Mais il faudrait maintenant situer un peu l'enveloppe de 10 millions de dollars que le chef de l'État a remis à la MIBA pour sa relance. Il faudrait d'abord les situer par rapport aux problèmes de la MIBA. Quels sont les problèmes de la MIBA?
Nous allons revenir. Charles Kabongo, vous êtes journaliste à l'agence congolaise de presse qui quitte au Bandundu. Quelle est l'actualité qui a dominé la province de Bandundu cette semaine?
Fichez-vous d'abord sur le crash de l'avion autonome de la compagnie Finnair qui est tombée à l'atterrissage à l'aéroport de Bassoko, dans la ville de Bandundu, qui a causé la mort de 20 personnes. Et vraiment, c'est la quatrième fois où la ville est en train de connaître ce genre d'accident. En dehors de ça, il y a eu, ici à Kikwit, le lancement officiel des activités de la Société nationale, Société nationale de loterie, qui a lancé ses activités ici il y a deux jours par le premier produit qui est le Penti. Il y a les gens vont se féliciter vraiment dans un engouement terrible vers les gens qui vendent vers les bureaux de national ici à Kikwit.
Merci. Avant d'aborder le débat de ce soir, nous allons commenter cette actualité. Notre conférencier Kabongo l'a évoqué. L'actualité sur le crash qui s'est produit mercredi dernier aux environs des 13h à Bandunduville, en province du Bandundu. 20 morts, c'est le bilan de cet accident, dont l'appareil Inlet 410 appartenait à la compagnie privée congolaise Filaire. Bienvenue Marie Bakoumania. Un crash de plus, comment vous réagissez par rapport à ça?
Oui, la responsabilité de l'autorité de l'aviation civile est très engagée. Et cette responsabilité ne s'exprime pas seulement en termes de compétences, elle s'exprime également en termes de volonté de faire quelque chose, en termes de matériel pour rendre un bon service. On a ouï dire, aussitôt qu'il y a eu ces crashs, qu'il y avait un problème de panne sèche. Comment est-ce qu'on peut imaginer une fois qu'un avion puisse prendre les airs sans avoir suffisamment de carburant? Et aussitôt, la société a répliqué qu'il y avait suffisamment de carburant.
Une panne technique,
c'est discutable. Mais ce qui m'a le plus choqué dans ce crash, c'est le fait que j'ai vu dans les images qui nous étaient arrivées le même soir, il y avait une foule immense tout autour de cet appareil. Il n'y avait aucune mesure de sécurité, de protection des populations qui venaient, des badauds qui venaient pour secourir les personnes en danger.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient exploser, causer des dégâts.
Un autre sanguin était arrivé et on avait encore d'autres problèmes sous la main. Donc, l'irresponsabilité, je n'ai pas d'autre terme pour m'exprimer en ce sens-là, l'irresponsabilité avérée du pouvoir public de garantir la protection des personnes tant dans les airs que aux alentours des endroits comme ceux-là écœurent et demandent à ce qu'on puisse réfléchir réellement à ce qu'on puisse changer de fusil d'épaule. On éviterait la survenance de tels accidents, de tels événements malheureux si on dote l'aviation civile congolaise et la régie des voies aériennes des moyens conséquents pour faire face à des contrôles préalables, des contrôles qui permettent à ce qu'il y ait suffisamment de sécurité au niveau de l'aviation civile.
Israël, l'irresponsabilité des pouvoirs publics, c'est votre avis?
Oui, je trouve que les pouvoirs publics ont leur responsabilité largement engagée, parce que je ne peux pas comprendre que l'autorité de l'aviation civile aujourd'hui ne réponde pas encore aux exigences de l'OACI, ça veut dire que c'est l'organisme qui gère le secteur aéronautique civil. Il y a plusieurs conditions pour faire partir de cette de cet organisme. Nous avons ratifié toutes les conventions irrelatives, mais jusque-là, nous n'arrivons pas à nous hisser à la hauteur justement de nos obligations en tant qu'autorité civile, en tant qu'autorité politique. Et donc c'est dommage qu'un avion comme celui-là, qui n'était pas sûrement aux normes techniques, qui n'avait pas sûrement aussi, j'imagine, le personnel qualifié, parce que l'autorité de l'aviation civile est aux abonnés absents. Il faudrait que les politiques puissent en tirer toutes les conséquences. Et je déplore le fait que cet accident, un accident de trop, n'est pas le dernier. Dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, il y aura un deuxième accident et on va recommencer. Pourquoi ? Parce que,
évidemment, on ne souhaite pas cela.
On ne le souhaitons pas, mais ce sont des conséquences logiques d'une inaction. Et donc, nous sommes installés dans une inaction qui fait que les malheurs vont nous tomber dessus. Je sais remarquer ici aussi que il y a deux sœurs jumelles dans le secteur aéronautique, il y a aussi la RVA. Quand vous voyez les infrastructures de la RVA aujourd'hui, c'est-à-dire les ports, les aéroports et les aérogares, vous voyez l'état dans lequel ils sont, vous comprenez tout de suite que la catastrophe n'est pas loin, parce que certaines pistes sont fissurées, il y a des longues crevasses, et donc tant la RVA et l'autorité de l'aviation civile ne sont pas encore en mesure de garantir la sécurité sur un Congolais.
Charles Kabongo, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, bon, on a pensé qu'en interdisant les vols des Antonov, on avait solutionné le problème, mais apparemment, rien n'a changé. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de catastrophes?
Oui, je disais que cet accident provoque encore, relance encore une fois de plus le débat sur l'assainissement d'un espace aérien dans notre pays. Vraiment, c'est vraiment regrettable si l'autorité de régulation de l'aviation civile ne parvient pas à trouver une solution. Bon, ici, à ce titre, cet avion, cet appareil n'arrive presque plus. Mais nous nous étonnons qu'il s'apprend maintenant dans Bango et le Maïndom. Vous voyez, c'est vraiment étonnant. On doit quand même arriver à assainir l'espace aérien pour sauvegarder la population ou bien sauvegarder les voyageurs. On doit quand même sécuriser les gens. L'avion a commencé par Kinshasa, qui était quelle distance pour arriver à Bangoulou, pour être si réellement qu'il n'y avait pas de siège, comme on avait dit auparavant. Et maintenant, on parle de la panne technique. Et on entretient des avions avant de les laisser voler. Donc, une fois de plus, nous pouvons considérer que nos avions comme les cercueils volants.
Merci, nous abordons notre premier thème ce soir. Visite depuis hier jeudi du chef de l'État à Mbujimayi au Kasaï oriental. À Mbujimayi, 2 millions de carats de diamants seront produits dans les 12 prochains mois. Cette assurance est du PAD de la MIBA, Madame Tousse Christine, qui l'a dit au chef de l'État ce vendredi lorsqu'elle a recevé le chèque de 10 millions de dollars pour la reprise minimale des activités minières. Pour sa part, le gouverneur des provinces demande aux autorités de la MIBA la transparence et la rigueur dans la gestion de ces fonds. Les précisions avec Nikin Poutou.
D'entrée de jeu, la MIBA priorise à travers ce chèque la certification des ces réserves pour la maîtrise de leur valeur. D'après la PAD de la MIBA, cette somme permettra de nouveau le fonctionnement minimal de la production avec une ferme assurance de produire 2 millions de carats dans les 12 prochains mois. Le gouvernement provincial, de son côté, sollicite l'implication du chef de l'État pour une bonne gestion des fonds donnés. Alphonse Ngoï Kassangi, gouverneur de province, attend un meilleur suivi face aux manigances des autorités MIBA, généralement basées sur la surfacturation de l'outil de production, l'incapacité des dirigeants de bien sécuriser la production et surtout les recrutements sur base du clientélisme à la MIBA, défavorisant la classe ouvrière. Après la réunion symbolique de ce chèque, le chef de l'État et sa suite visitera les installations de la STIM, Société congolaise d'investissement minier, où il sera présenté au chef de l'État les premières productions réalisées. Depuis Boya, dans le territoire de Miadi, Nkempoutou, Radio Okapi.
Bienvenue Marie Bakoumania, 10 millions de dollars, une bouée de sauvetage pour la MIBA.
Bon, moi je suis pas d'avis qu'il faille remettre à la MIBA 10 millions de dollars pour la remettre sur les rails. Je suis d'avis qu'il faut chercher vraiment ces investissements en masse. Il faut absolument que la MIBA ait suffisamment d'argent pour son décollage réel.
Et Mme Tiffet avait parlé de 200 millions de dollars américains pour lancer effectivement les activités.
Minimum, c'est 140 millions. Voilà. C'est 140 millions minimum pour relancer la MIBA. Qu'on ne soit pas amnésique. Il n'y a pas longtemps, la MIBA avait contracté une dette à Rao Bank. C'était 11 millions. C'est 10 millions, 11 millions, c'est pratiquement la même chose. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que ça permet à la NIBA d'être remis sur les rails? Non, pas du tout. 10 millions, ça va servir à la consommation et ça ne va pas servir à la production, c'est dommage. Madame la PAD parle de la certification, je suis d'accord avec elle qu'il faut commencer par là, c'est vrai qu'il faut commencer par là, mais la certification ne veut pas dire qu'il y aura de l'argent directement. Il faut que cette certification aide à ce que la NIBA puisse se présenter devant des bailleurs de fonds pour justement obtenir ces 140 millions minimum qu'il lui faut pour sa relance.
Israël Moutala, 10 millions, il ne faut pas minimiser ce fonds, hein, c'est quand même quelque chose. Et si cet argent est bien géré, comme l'a dit Madame Toussé, hein, elle a évoqué certaines priorités, notamment la certification des réserves. Si cet argent est bien géré, ça aurait inévitablement un impact sur la reprise des activités de cette société.
Le problème, c'est que moi, je trouve que quand même 10 millions de dollars, c'est pas beaucoup. On l'a rappelé ici, que pour remettre la NIBA sur le chemin de sa production initiale, c'est la production nominale qui est de 10 millions de carats l'an, plutôt que 2 millions de carats. Là, c'est le 1/5 de sa production. Il faudrait absolument une somme de l'ordre de 200 millions de dollars. Parce que nous ne sommes pas amnésiques, comme l'a dit Bienvenue tout à l'heure. La NIBA, elle souffre de quoi? Son outil de production est vétuste. Elle n'a pas de fonds de roulement. Elle a un effectif pléthorique par rapport au niveau de production actuel. Elle a encore quoi? Il y a la méconnaissance de ses gisements. Que vaut ces gisements? Le gisement principal, qui est celui qui est situé dans le polygone, lui-même est en train, a perdu beaucoup de sa valeur. Il s'est épuisé. Donc, il faudrait planifier l'avenir de la NIBA en faisant justement de la prospection, en certifiant les réserves. Mais la certification des réserves, comme on l'a dit tantôt ici, c'est pour faire un inventaire de nos ressources minérales afin justement d'aller lever les fonds devant les institutions financières bancaires. Parce que jusque-là, les institutions financières bancaires, notamment sud-africaines, qui étaient prêtes à mettre 200 millions de dollars pour relancer la NIBA, exigeaient la cession partielle des actions de l'État détenues dans la NIBA. Parce que la NIBA est détenue à 80% par l'État et à 20% par Monafrica. Monafrica qui a remplacé la Sibeka, la société belge. Donc c'était le deal. Alors le gouvernement se dit que actuellement ce serait brader la NIBA que de céder dans ces conditions où la société est presque par terre, donc on risque de l'acheter pour une bouchée de pain. Et je partage quand même cet avis des experts du gouvernement, dans ce sens que le 10 millions ne sont pas le remède. Moi j'ai qualifié le 10 millions comme un pré-remède. Avec le salaire, c'est une somme qui va constituer un petit fonds de roulement qui va permettre, avec peut-être le gisement de la Fingami que la NIBA a récupéré finalement, avec ce fonds-là bien utilisé, on peut avoir une situation minimale de production. Et donc, c'est faisable. Mais à condition seulement que nous soyons rigoureux. La situation de la NIBA n'est pas aussi désespérée que celle de la Gécamine. La NIBA est endettée. Mais la NIBA n'est pas surendettée et la NIBA n'a pas vu justement ses joyaux ou ses bijoux être disséminés à travers les givets comme c'est le cas à la Gécamine. La NIBA a son patrimoine intact, elle a des gisements très riches, la colline du côté de Chibou et tout ça. Donc il est maintenant question que de maisons de prospection professionnelles puissent certifier, puissent dire voilà, il y a autant de millions de carats. Avec ça, vous assurez une prospective, une production certaine. Donc je pense que les 10 millions, bien gérés, peuvent aider à relancer la NIBA, bien sûr.
Oui, Charles Kabongo, Madame Toussé, qui est PAD de la NIBA, a fait la répartition de ces 10 millions de dollars. Elle parle d'abord de la certification des réserves minières qui doivent demander 1 250 000 $. La réhabilitation de l'outil de production, 3 500 000 de dollars. L'acquisition des principaux engins qui nécessitent 5 500 000 dollars. Mais dans tout ça, on n'a pas évoqué les facteurs humains. Vous pensez que si on ne fait rien pour le personnel, les choses pourraient marcher convenablement?
Oui, avant de répondre à votre préoccupation, j'aimerais d'abord dire quelque chose sur ce geste du président de la République, que je salue, parce que c'est un bon geste qui parviendrait quand même à relancer les activités. On dit bien, vaut mieux qu'il qu'il aura que...
Un tiers, vaut mieux que dès qu'il aura.
Oui, oui. Et quelque part, c'est vraiment un bon geste Parce qu'on doit commencer quelque part avant d'avancer. On commence un pas pour aller à 10. Je dis non, là, je pense que ça pourra quand même aider l'AMIBA à relancer ses activités. Mais en ce qui concerne votre préoccupation, je trouve aussi que c'est vraiment terrible si on oublie les facteurs humains. Parce que pour que l'AMIBA puisse bien marcher, il faudra qu'on pense aussi aux facteurs humains. C'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit travailler. Mais si l'homme ne se retrouve pas, comment il aura la conscience de bien travailler?
Oui, bienvenue Marie Bakoumania. Les facteurs humains, pourquoi on n'a pas tenu compte de ça dans la répartition de ces 10 millions de dollars?
Bon, moi je comprends, madame, Toussé, la PAD de l'AMIBA. Elle a géré l'AMIBA pendant cette période de crise. C'est grâce à elle, pratiquement, qu'on a cette accalmie qu'on a constatée à l'AMIBA. Je crois que le personnel a besoin d'avoir une production pour se faire payer plutôt que d'avoir ces fonds-là, les consommer maintenant là, pour ne plus rien avoir le lendemain, ce qui fait que la programmation telle qu'est présentée par madame la PAD, moi je l'agrée et je trouve que c'est judicieux de procéder de cette manière-là, plutôt que de consommer les 10 millions comme salaire, alors que le lendemain les gens n'auront plus rien.
Oui, Israël et Moutala, mais la production elle est impulsée par les hommes.
Justement, votre question est pertinente, mais il faut que les hommes sachent aussi qu'ils se sont imposés un sacrifice et que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils doivent encore patienter pour cueillir le fruit de leur travail. Donc, ils ont été assez patients jusque-là. Une année ou deux ans encore de plus de patience ne tuerait personne parce que la vertu veut qu'on relance la production et puis qu'on se redistribue les fruits de cette production. Si l'on consomme aujourd'hui les 10 millions, on ne fera rien du tout. Mais j'aimerais quand même que l'État puisse trouver un autre mécanisme pour assurer un tiers de salaire, surtout par exemple du personnel qui est commis à la sécurisation du gisement, pour que justement le peu de ressources disponibles ne soit pas pillé comme c'était le cas il y a quelques mois. Et donc il faudrait qu'on trouve un petit moyen de faire vivre ce personnel, mais pas avec le 10 millions, parce que le 10 millions doit servir vraiment à la certification des réserves, c'est une très bonne chose, doit servir à l'achat, à l'acquisition de certains outils de production et au fonds de roulement. Ça, c'est vraiment important. Qu'on ne perde pas ça de vue.
Charles Kabongo, comment vous entrevoyez l'avenir de l'AMIBA?
Oui, l'avenir de l'AMIBA va être le premier diable que les chefs de l'État viennent de faire. Je trouve que ce sera un bon avenir. Mais le problème qui est là, il faudra que les gens travaillent aussi. Il faudra que l'AMIBA ne puisse pas attendre que l'on puisse les aider de l'extérieur, mais que l'AMIBA puisse diversifier un peu ses productions. Comme il est en train de faire le diamant, il peut aussi créer aussi, pour provoquer aussi l'agriculture, pour qu'avec l'agriculture, il peut vendre ses marchandises et avoir aussi de l'argent.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Désignation des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le RCD et l'UDPS réclament chacun un poste parmi les trois qui doivent revenir à l'opposition dans la composition de cette institution. Les partis politiques de l'opposition réclament toujours un consensus concernant les prochaines élections. La dernière réclamation en date émane du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD en sigle, et l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Leurs présidents nationaux, Azarias Rouberoy et Etienne Tshisekedi, ont tenu respectivement des conférences de presse au cours desquelles ils ont estimé qu'on ne peut pas intentionnellement violer la Constitution et vouloir gouverner par défi. Allusion faite au calendrier électoral publié par la CEI, qui ne respectait pas, selon ce parti de l'opposition, les délais constitutionnels. Par la même occasion, le RCD et l'UDPS réclament chacun un poste parmi les trois qui doivent revenir à l'opposition dans la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. On écoute Azarias Rouberoy, président du RCD. Ses propos sont recueillis par Innocent Olinga.
Le RCD est fondé à postuler, à avoir, et nous sommes fermement convaincus que nous aurons cette personne-là, d'autant plus que nous sommes la deuxième force au sein de l'opposition. Je pense que vous le savez. Et la troisième force au niveau de la nation. Je m'explique. Quand vous prenez tous les partis politiques de l'opposition, le premier qui vient en tête avec en termes de nombre de députés, c'est le NLC. C'est connu. Le deuxième qui suit, c'est le RCD. Donc, quoi de plus logique que d'exiger que sur les trois postes, deux soient dévolus à l'opposition instructionnelle, et un poste, le troisième, est dévolu à l'opposition non instructionnelle. Et si vous revenez dans la logique interne de l'opposition institutionnelle, quoi de plus logique que le premier poste ou l'un des postes soit attribué au premier parti en termes d'importance des députés et des sénateurs, et le deuxième poste, justement parce qu'il n'y en aura que deux dans cette logique-là, dans l'opposition institutionnelle, revient au parti qui a le plus grand nombre de députés et de sénateurs. Nous avons 15 députés en tant au niveau national, 7 sénateurs qui constituent tout un groupe parlementaire, 41 députés provinciaux. Et qu'un tel parti politique exige d'avoir un poste sur le poids qui revient à l'opposition, quoi de plus normal.
De leur côté, l'UDPS et le MLC réclament aussi un poste pour chacun de ces deux partis. Israël Moutala, le débat est lancé au sein de l'opposition politique. Et comment vous analysez ce débat?
J'analyse le débat, je trouve qu'il est sain pour les gens de s'exprimer quant à leurs prétentions. C'est un exercice démocratique, mais j'en appelle quand même au sens de la mesure. La classe politique congolaise, elle brille souvent par son outrécuidance, son orgueil. C'est-à-dire que chacun veut le meilleur morceau en ne tenant pas compte du rapport de force. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, quand Maître Averas Roubaix-Roy évoque que son parti est la deuxième force de l'opposition, je pense que cette photographie est quand même un peu plus biaisée. Pourquoi? Parce que il n'a pas tenu compte de dissensions internes et de tous les députés qui ont quitté le navire RCD depuis lors. Donc aujourd'hui, une bonne partie des cadres de RCD
ont quitté officiellement.
Ils n'ont pas quitté officiellement, mais ils ne viennent plus à leur réunion. Je parle de Trésor Kapuku, je parle de Serufouli, je parle de Onosumba, je parle et des meilleurs. Il y a des cadres du RCD qui ne sont plus RCD. Et donc, ce sont des gens qui sont en attente, qui sont pour parler avec l'AMP pour rejoindre la plateforme présidentielle.
Ah bon? Vos sources?
Oui, mes sources me le confirment. Donc, j'étais mes sources, mais je sais qu'ils sont dans les salons, ici à gauche et à droite, en train de travailler au rapprochement pour soutenir la candidature du chef de l'État. Et dans cette position-là-bas, on ne peut pas se dire être la deuxième force de l'opposition institutionnelle. Et donc, aujourd'hui, modestement, le RCD, je pense, pourrait au moins s'effacer pour favoriser la candidature de l'UDPS. Il faut se rappeler quand même qu'en 2006, le RCD a joué avec la carte de la compassion envers l'UDPS qui était resté sur le banc des institutions. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps quand même que le RCD s'efface pour laisser place quand même à l'UDPS d'avoir tout le sens d'être dans cette commission. C'est faire justice à l'histoire.
Bienvenue Marie Bakoumania. À votre avis, ce débat pourrait aboutir à quoi? Nous avons qu'à définitive, on aura 3 membres de l'opposition dans la prochaine CENI. Mais est-ce que cela pourrait se passer sans conséquence au sein de l'opposition?
C'est le péché originel de cette loi qui crée la CENI. Le péché originel, c'est ce piège que les politiques ont mis dans la loi. Maintenant, l'agenda caché des différents groupements politiques est en train de revenir à la surface. On avait demandé à ce qu'on ait une commission électorale indépendante, non politisée, mais on a obtenu, la classe politique a obtenu d'avoir une commission électorale nationale indépendante politisée. Les loups vont s'empoigner, ils vont s'entre-déchirer.
C'est voulu par la classe politique, elle doit tirer les conséquences.
La classe politique elle-même, elle n'est pas conséquente avec elle-même. On veut d'une chose et de son contraire à la fois. Et là, on démontre justement que les personnalités qui vont être désignées vont être rédévables aux personnes, aux partis qui vont les désigner. Ils ne seront pas des personnalités indépendantes, ce qui va conduire en 2011 à des élections qui, elles-mêmes, contiennent le base de la contestation. Et là, c'est dangereux pour une nation comme la nôtre. Moi, je suis d'avis il n'est pas encore tard. Bon, maintenant que le calendrier est peut-être déjà publié, il n'est pas encore tard pour l'opposition de se mettre autour d'une table et de trouver les personnalités qui sont réellement neutres, qui n'ont pas de coloration politique. C'est difficile d'en trouver, mais dans ce pays, il y en a quand même.
Et à votre avis, est-ce que ce débat n'aura pas de conséquences néfastes sur cette opposition politique?
Ça aura même des conséquences néfastes sur la CENI. Elle ne va pas fonctionner. Et ceux qui demandent à ce qu'on puisse avoir des élections dans les délais constitutionnels, ils seront désillusionnés. L'opposition, elle a été incapable de se choisir un porte-parole pendant des années, deux ou trois années. Incapable. Est-ce qu'en quelques jours, ils vont se choisir trois personnalités? Déjà là, les loups sont en train de se déchirer entre eux au sein même de l'opposition. Ils ne parleront jamais le même langage. Ça va être difficile. Et le fonctionnement de la CENI en tant qu'institution organisatrice des élections, et même les élections elles-mêmes pourront se tenir difficilement dans ces conditions-là. Il faut qu'on se réveille rapidement, si l'on veut vraiment aller aux élections, il faut qu'on se réveille rapidement et qu'on mette en place une structure de concertation au sein même de l'opposition et qu'on tienne surtout compte de ceux qui ne sont pas dans les institutions.
Et Charles Kabongo, comment vous analysez cette approche qui consiste à réclamer des postes en faisant des déclarations? N'y aurait-il pas un autre moyen, beaucoup plus consensuel, un moyen accepté par tous?
Oui, ce moyen-là, que comme vous venez de le dire, mon confrère.
Bienvenue, Marie Lacoumania.
Les partis politiques puissent se concerter pour que vous y arrivez à trouver les trois personnes valables. Parce que les revendications de ces trois politiques, ce sont des revendications qui sont légitimes. Nous sommes dans la démocratie, chacun veut être aussi parmi les trois. Mais s'ils arrivent à se réunir autour d'une table pour trouver une solution. Parce qu'il n'y a que trois places et nous avons combien de partis politiques. Et comme conséquence, je pense que ça risque de diviser encore l'opposition. Il n'est pas parvenu à se choisir un porte-parole.
Donc, Israël Moutala, il faut que l'opposition se concerte nécessairement pour essayer d'harmoniser le point de vue.
La faiblesse, elle est là. Les concertations à elles seules ne suffisent pas. Il faudra absolument que chacun pèse ce que j'appelle une certaine gloutonnerie politique, sa gourmandise politique, pour faire passer l'intérêt supérieur de la nation. Et nos politiciens, je les crois capables du pire, mais aussi du meilleur. C'est toute la problématique ici du mode de désignation de ces membres. Ces membres seront entérinés par l'Assemblée nationale, mais après désignation par chacune des forces politiques, par chacune des composantes, après ça. Mais maintenant, quel est le mode de désignation? Le mieux serait que le consensus. Tout le monde se dit d'accord, voilà, on opte pour tel, il n'y a pas élection. Mais même quand on désigne, le mode de désignation, ce sont les élections. Mais comment on va définir le corps électoral? Si aujourd'hui, par exemple, le MLC est sûr de son bon droit, c'est parce qu'il sait, avec les élections, si le corps électoral n'est conçu que des députés de l'opposition, lui avec ses 64 députés, il peut même rafler tous les postes. Le RCD, avec quelques députés, bon, il peut influencer un peu, mais globalement, c'est le corps électoral qui va poser problème. On vient de créer une nouvelle plateforme, Opposition Union Sacrée, tout ça.
Pour la terrasse.
Ils vont demander aussi à faire partie du corps électoral, si on élargit le corps électoral, à des personnalités de l'opposition extra-institutionnelle, extra-parlementaire. C'est extrêmement compliqué. Il faudrait un sens élevé de l'État, que certaines, justement, puissent s'effacer au bénéfice des autres. Donc, voilà un peu mon petit conseil, mais je ne suis pas très, très rassuré quant à l'avenir politique de la désignation des membres de l'opposition de la CENI.
Bienvenue Marie Bakoumania. L'Assemblée d'État a promulgué la loi sur la CENI. Ça fait presque un mois.
Mm-hmm.
Et pourquoi la classe politique ne se réunit pas pour désigner les personnes qui doivent faire partie de cette institution?
Je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a peur des élections, sauf particulièrement à ceux qui ne sont pas encore prêts. Et ceux qui ne sont pas encore prêts sont ceux-là justement qui n'ont pas goûté au partage du gâteau. Et ils sont pratiquement, pour la plupart, dans l'opposition. Moi, je suis d'avis qu'on veut amener les gens à ce que, à l'échéance du 6 décembre 2011, qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il y ait des concertations et qu'on se partage les gâteaux comme ce fut avant les élections de 2006. Je suis d'avis que si l'on ne fait pas attention, et là ce n'est pas, et c'est l'opinion qui doit plutôt ramener la classe politique à la raison, dire à la classe politique que les élections il faut les tenir suivant les délais constitutionnels qui est de 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice, il faut que l'opinion ramène la classe politique en lui demandant de se mettre d'accord pour mettre rapidement la CENI afin d'éviter cette confusion qu'il y a entre CU et CENI. C'est à ce prix-là seulement qu'on pourra avoir des élections apaisées, qu'on pourra avoir des élections crédibles.
Oui, cher Kabongo, comme le dit bien dit Marie Bakoumania, il faut que l'opinion pousse la classe politique à faire ce travail-là, à désigner d'abord les membres qui doivent faire partie de la CENI et à se préparer pour les élections qui doivent se tenir dans les délais constitutionnels.
Oui, c'est ça, parce que la population n'acceptera pas qu'on puisse dépasser ces délais. Ce que nous pouvons dire maintenant, par exemple, à nos amis de l'opposition, c'est de s'entendre que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin pour qu'on puisse trouver une solution. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps et on va dépasser le temps établi par la Constitution.
Merci. Nous abordons notre dernier thème de ce soir. Violence sexuelle en République démocratique du Congo. Selon le ACR, au moins 1244 femmes ont été violées au cours du premier trimestre 2010 à l'est du pays, soit près de 14 viols par jour en moyenne. De nombreuses personnes ont été victimes des graves violations des droits de l'homme dans plusieurs villages du secteur d'Impossi, à environ 85 km au nord-est du chef-lieu du territoire des Walikale. 150 femmes au moins ont été violées alors que les hommes et les enfants ont subi différentes sortes de violences. Ces atrocités se sont déroulées entre le 31 juillet et le 2 août dernier lorsque des hommes armés ont assiégé plusieurs villages dans ce secteur. Les autorités administratives locales ont confirmé ces informations, même si elles disent n'avoir pas des bilans précis à cause de l'enclavement de ces villages. Le point avec Sifa Maguru.
Selon les organisations locales des droits de l'homme, ces personnes ont subi plusieurs formes de violences, notamment les viols collectifs, les travaux forcés, des tortures et autres. Les villages visés sont ceux du groupement d'Ihana, notamment Pofi, Kembe, Robonga, Ruvungi, Tueno, Bunyampuri, Braza et bien d'autres. La même source précise qu'au moins 154 femmes ont été enregistrées comme ayant subi le viol. Elles suivent actuellement un accompagnement médical auprès des ONG IMC, International Medical Counseling, ainsi que Il Africa. Mais beaucoup préfèrent garder le silence. Un activiste de Walikale qui a requis l'anonymat témoigne.
Jusqu'à maintenant, on est en train de répertorier nos victimes et le nombre est assez énorme et qui demande n'est pas l'intervention et l'implication des autorités locales, tant civiles que militaires, en fait de sécuriser cette population victime de ce viol. Et c'est tout toute forme de viol a été commise, des enfants au-delà et même les vieilles femmes.
Selon toujours notre source, la plupart des hommes ont subi des travaux forcés ayant été obligés de transporter des butins des assaillants sur des très longues distances. Les autorités locales se disent préoccupées par cette situation. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
D'après nos sources, le nombre de ces femmes est passé aujourd'hui à plus de 200 personnes. Bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef économie au journal Le Potentiel, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. 150 femmes sont violées dans un espace de 3 jours, du 31 juillet au 2 août. Comment on peut expliquer la réapparition de ces phénomènes de viol massif des femmes?
Le 2 août, encore une fois, le 2 août. Non, vraiment, c'est difficile à accepter que dans un pays comme le nôtre, où pendant la transition, on a peiné à mettre en place une armée nationale, qu'après les élections, je crois aujourd'hui, 4 années après les élections, qu'on n'ait toujours pas pu mettre en place une armée nationale, qu'on soit incapable de sécuriser les frontières nationales, qu'on soit incapable de sécuriser nos compatriotes qui sont à l'Est, ça interpelle. On se dit, on est mal. La gouvernance qu'on a adoptée jusque-là n'est pas bonne. Et cette gouvernance ne permet pas à la République démocratique du Congo de s'affirmer comme État. Qu'on viole des gens pendant 3-4 jours et que dans le parage, l'armée n'intervienne pas, que même la MONUC, qui est censé protéger les populations civiles, n'interviennent pas. L'armée où l'on considère que la majorité des éléments de FRDC se trouveraient dans la partie orientale du pays, tout comme les éléments de la MONUC, c'est inacceptable. Je suis d'accord avec le secrétaire général de l'ONU qui a condamné cet acte. C'est inacceptable qu'on puisse enregistrer en ce 21e siècle encore des barbaries de la sorte. Je sais que c'est une arme d'humiliation, les viols. On veut humilier les gens, on veut les détruire dans leur âme, c'est vrai. Mais je crois, à mon humble avis, qu'il appartient au gouvernement, il appartient vraiment au gouvernement, de mettre en place rapidement, sans délai, en toute urgence, une armée républicaine, une armée professionnelle pour sécuriser les frontières nationales et les personnes.
Israël Moutala, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis, un magazine économique qui paraît ici à Kinshasa. Bienvenue Marie Bakoumana. Pense que si on met en place une armée forte, une armée capable de défendre les frontières de ces pays, on peut arriver à solutionner ce problème des viols des femmes.
Je suis tout à fait d'accord avec Bienvenue, parce que une armée et une police républicaine bien armée et professionnelle vont contribuer à renforcer l'autorité de l'État, qui fait cruellement défaut dans cette partie de l'État et même ici à Kinshasa. Mais je ne peux pas ne pas condamner cet acte de ces pratiques moyenâgeuses. Je suis outré par ces pratiques. Pour moi, ces pratiques constituent des crimes contre l'humanité. Et donc, s'il y a des gens qui agissent de la sorte, c'est que ça veut dire que la menace de l'armée, la menace de la police, la menace de la justice n'est pas présente à leur esprit. C'est-à-dire, pour poser de tels actes, c'est qu'on se dit qu'il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura pas de repression. Donc, ces actes sont une expression de
l'impunité.
De l'impunité et de l'absence de l'État et du dysfonctionnement de l'État.
Le professeur Yaoudi, le professeur à l'Université pédagogique nationale, dit que les auteurs de ces actes visent en réalité la désintégration de la société congolaise. Vous partagez ce point de vue?
Désintégration de la société congolaise, bon, je n'irai pas jusque-là, mais je sais que violer systématiquement des gens comme ça, c'est humiliant, c'est... je ne peux pas imaginer le calvaire. J'imagine ma maman chérie, j'imagine mes sœurs, j'imagine ma fiancée. Connaître un tel acte de barbarie, je ne m'en remettrai peut-être pas. Ça veut dire que c'est vrai, ça détruit moralement. Mais ces gens là-bas, il faut le rappeler, qui sont-ils? Les FDLR et les Mai Mai. Ce sont des gens qui sont drogués à longueur de journée. Ce sont des gens qui n'ont aucune éducation. Donc tout se tient. C'est-à-dire des gens à qui on n'a pas donné l'instruction, parce que l'instruction, elle nous arrache à l'animalité. Parce que ce sont des actes d'animalité, de barbarie. Et donc ce sont des gens qui ont été déracinés, qui n'ont pas des attaches républicaines par l'éducation, qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas d'histoire, qui sont récupérés et à qui on a fait miroiter le pouvoir, qui prennent les armes et qui tuent sauvagement. Ces personnes là-bas, pour qu'on y mette ça, il faut absolument une action concertée entre tous les services de l'État, avec l'appui justement de la MONUSCO.
Charles Kabongo, je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence congolaise de presse qui quitte au Bandundu. Nous avons l'impression que le gouvernement congolais gère plutôt les conséquences au lieu de gérer les causes. Comment vous analysez cela?
Oui, vous avez raison de dire, parce que vous voyez, tout ce qui se passe là, ce sont les conséquences de l'insécurité. Nos sœurs qu'on est en train de violer, nos mères qu'on est en train de violer, nos enfants qu'on est en train de violer, par nos propres fils même, les pères, ce ne sont pas les Congolais, nous, les Maïmaïs sont nos frères, pourquoi ils sont en train de violer leurs propres sœurs, leurs propres enfants, leurs propres mères? Ces pauvres femmes-là ne sont pas civilisées. C'est ça la conséquence de la guerre. Si il y avait la paix, moi, je pense que des choses comme ça ne pouvaient pas arriver. Et nous demandons à notre gouvernement de sécuriser la population. La population n'est pas sécurisée, c'est comme ça qu'on est en train de faire des actes inhumains pour ce siècle.
Merci, c'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique, Alain Rung à la réalisation, assisté de Kelly Nkouté, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Guy Maté vous a présenté cette émission. Merci et bon week-end sur Radio Okapi. Thank you.